Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Pendant plusieurs heures avant-hier, l'accès à la maison d'arrêt d'Ony dans le Val d'Oise est resté bloqué. Près de la moitié des surveillants de cet établissement entendaient protester contre la dégradation des conditions de sécurité. En cause, l'agression à l'arme blanche de deux de leurs collègues quelques jours plus tôt. Un agresseur pas vraiment comme les autres, dans une prison plus vraiment comme les autres. Le détenu en question avait été condamné au mois de mars à 5 ans de détention pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme. Il purgeait sa peine dans une unité de prévention de la radicalisation, une des 5 unités dédiées créée par l'administration pénitentiaire début 2016. Or, certains voient dans cet incident la preuve de l'inefficacité de ces unités où les détenus radicalisés sont isolés des autres. Mais pour Jean-Jacques Urvoas, le ministre de la Justice, pas question de renoncer à ce qui n'est pour l'instant qu'une expérimentation. Moins d'une centaine d'individus sont concernés, alors que le nombre total de détenus radicalisés est estimé par le ministre à 1400. Alors, s'il n'envisage pas la fermeture de ces centres, le garde des Sceaux promet d'y renforcer la sécurité. Multiplication des fouilles, accès réduit aux médias, effet personnel limité, etc. Mesure insuffisante pour une partie de l'opposition qui réclame des ajustements de la législation, comme par exemple la rétention de sûreté pour les personnes condamnées pour terrorisme. Alors, faut-il un régime d'exception pour les détenus radicalisés? C'est la question que nous allons poser ce soir à nos invités. Adeline Azan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la contrôleure générale des lieux de privation de liberté depuis juillet 2014. Vous avez rendu en juin dernier un rapport sur ces unités dédiées aux détenus radicalisés. Un rapport remis au ministère de la Justice. Je précise par ailleurs que vous êtes ancienne magistrate et ancienne femme politique. Vous étiez notamment maire de Reims. Pour discuter avec vous, Stéphane Jacquot, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien secrétaire national de l'UMP en charge des questions pénitentiaires. Vous êtes le fondateur de l'Association nationale de la justice réparatrice. Et vous avez publié l'an dernier aux éditions Economica « Prison, le choix de la raison », ouvrage préfacé par Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, et que vous avez écrit avec Dominique Rimbourg, qui est un député socialiste qui a été le rapporteur de la réforme pénale de Christiane Taubira. Troisième invité, Louis Akiès, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, vous avez mené une recherche-action sur la détection et la prise en charge de la radicalisation religieuse en milieu carcéral. C'était dans les prisons de Fleury-Mérogis et Ony, celle dont je parlais il y a un instant. Il faut préciser que cette recherche-action, vous l'avez faite avant la mise en place, si je ne me trompe, de ces unités dédiées. C'est bien ça?
Oui, c'est important de le signaler. C'était un appel d'offres qui datait d'octobre 2014, effectivement.
Ils sont arrivés très tôt, 6 heures ce matin. Ils étaient plusieurs dizaines, des représentants syndicaux, mais aussi des personnels pénitentiaires d'ici, de la prison d'Ony, mais aussi d'autres venus de Fresnes ou de Fleury-Mérogis. Ils réclament plus de moyens, plus d'effectifs. Ils dénoncent la formation de ces unités de prévention de la radicalisation qui s'avère dangereuse. Ils le disent, ils vont au travail la peur au ventre. Ils demandent des isolements plus restrictifs. Ils demandent des moyens techniques. Ils demandent des formations. De question de relâcher la pression. Ils ont prévu de se réunir à nouveau demain. Ils prévoient d'être plus nombreux, cette fois devant la prison de Fresnes, au moment où le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a prévu une visite.
Voilà, reportage diffusé avant-hier sur ITL, qui faisait donc suite à cette occupation, disons, des surveillants, d'une partie des surveillants de la prison d'Ony dans le Val d'Oise. Alors le ministre, comme je le disais en ouverture de cette émission, leur avait répondu un petit peu avant en annonçant un certain nombre de mesures quelques jours plus tôt au journal du dimanche. Je rappelle hein, vite fait les rotations de cellules systématiques, des fouilles plus nombreuses, des effets personnels limités pour les détenus, un accès limité à la cantine. La cantine sont les magasins à l'intérieur des prisons qui permettent aux détenus d'acheter un certain nombre de biens. Et puis des publications extérieures davantage contrôlées, c'est-à-dire faire rentrer, peut-être enfin, davantage surveiller quel type de publications rentrent dans ces prisons. Est-ce que vous y voyez les uns et les autres une première réponse adaptée au niveau de dangerosité de ces détenus dans ces unités dédiées, Adeline Azan?
Écoutez, moi, pour ce qui concerne les unités dédiées, j'ai, comme vous l'avez rappelé, j'ai fait un rapport qui était le deuxième. Je ne pense pas que ce soit la solution. Mais auparavant, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que il faut rester très modeste sur ces expérimentations. Et je crois que personne, à ce jour, ni en France, ni dans aucun autre pays confronté, comme la France l'est en ce moment, à ce phénomène, n'a trouvé la solution.
Et quand vous me dites, je ne crois pas que ce soit la solution. Alors, vous parlez des unités dédiées, mais pas forcément des mesures de renforcement de la sécurité qui ont été décidées par le ministre.
Je parle du fait de regrouper dans une même unité des détenus radicalisés ou en tout cas censés et perçus comme étant radicalisés. Je ne le pense pas, je l'ai écrit pour plusieurs raisons. D'abord parce...
Oui, mais ça, si vous le voulez bien, Adeline Hazan, on y viendra dans un deuxième temps. Je voudrais d'abord que vous me répondiez sur ce renforcement des mesures de sécurité qui sont prises. Est-ce que, par exemple, qu'il y a un accès limité à la cantine pour ces détenus, qu'il y ait des effets personnels limités, est-ce que ça vous semble déroger, on va dire, aux droits des détenus?
Tout à fait. Le fait de restreindre les cantines, qui, comme vous l'avez dit, est une façon pour les personnes détenues en général de pouvoir acheter des choses qui leur manquent en détention, que ce soit de la nourriture ou un certain nombre d'autres objets, mais essentiellement quand même de la nourriture, ne me semble ni une réponse adaptée à une situation perçue comme dangereuse, ni une réponse qui va régler quoi que ce soit. Donc je crois que là, on est dans l'effet d'annonce d'un garde des Sceaux qui veut tenter de rassurer l'opinion publique, j'imagine. Mais franchement, restreindre les cantines, c'est-à-dire ce que les détenus vont acheter essentiellement, je le redis, pour se nourrir, je pense qu'on n'est vraiment pas dans une réponse satisfaisante. Ça me paraît aller de soi.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Stéphane Jacquot?
Alors moi, je suis d'accord avec Adeline Hazan sur ce point, notamment parce que ça touche la dignité. Enfin, je veux dire, effectivement, il faut toucher à certains droits. Par exemple, il est évident qu'il faut restreindre le droit à l'information. Faut-il pas ? Alors ça, c'est une question sur temporairement couper les liens familiaux dans le cadre où qu'un détenu soit identifié comme étant radicalisé et dangereux, mais ça doit rester effectivement du temporaire.
Quand vous dites couper les liens familiaux, ça veut dire interdire, par exemple, les visites des familles à ces
détenus. Quelque chose de contrôlé, bien évidemment, par le juge de l'application des peines. Mais effectivement, ça doit faire partie d'un régime particulier qui est lié à une personne qui est en lien avec une condamnation terroriste.
Donc, mais est-ce que ça veut dire que pour vous, ça fait partie d'un régime particulier temporaire, ou bien est-ce que ça doit faire partie d'un régime particulier, mais qu'il faut repenser pour vraiment l'appliquer à ce type de détenu? J'ai vu dans une interview au Point, par exemple, que vous plaidiez pour l'adoption d'un régime de détention dédié pour ces détenus qui pourraient s'inspirer de ce qui est fait pour les personnes qui sont condamnées pour des crimes sexuels.
Alors, effectivement, on a vu qu'on pouvait adapter un régime de détention à certains criminels ou délinquants sexuels, parce que on le voit bien, les incarcérer dans des établissements dits ordinaires avec d'autres délinquants ou criminels d'autres infractions, on voit bien qu'effectivement leurs conditions, même pour leur sécurité, vaut mieux les mettre à l'écart. Là, on parle de délinquants et criminels sexuels qui nécessitent une prise en charge différente, mais là, aujourd'hui, face à la menace qui frappe la France, on le rappelle quand même, on est en état d'urgence, il faut modifier l'arsenal pénal, c'est évident, il faut apporter des réponses différentes et adaptées à la menace qui nous touche.
Les réponses qui sont apportées aujourd'hui, sans doute dans l'urgence, si vous acquiescez par le garde des Sceaux, est-ce que ce sont des réponses qui vous paraissent être assez exceptionnelles, ou bien est-ce que finalement ce sont des réponses relativement classiques pour des détenus qu'on considère comme dangereux? Parce que des détenus dangereux, il n'y en a pas seulement qui sont des détenus condamnés pour terrorisme, en tout cas, ou radicalisés.
Alors, sur la question des unités dédiées, j'essaierai de vous répondre à la question des propositions faites par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Les unités dédiées, j'étais très critique. D'ailleurs, j'avais été auditionnée par l'équipe de Madame Hazan sur ces questions des unités dédiées. Oui, la question se posait à l'époque de savoir que de rassembler, et on l'a vu, que ce soit au Liban, que ce soit dans d'autres pays, en Irak, etc., de rassembler les mêmes profils, ou en tout cas les mêmes faits, ensemble, ça pouvait encourager simplement le passage à l'acte, de fait. L'unité dédiée, en maison d'arrêt, ça me semble quasiment impossible. Maintenant, c'est une décision politique. Ce n'est pas une décision de l'administration pénitentiaire. C'est une décision politique suite à des événements qui ont effectivement troublé l'ordre public, c'est-à-dire les attentats de janvier 2015, où le Premier ministre décide finalement de lancer plusieurs unités dédiées sans retour d'expérience de ce qui se passait à Fresnes. Les architectures des prisons sont différentes. Et que ce qui se passe à Fresnes et la décision du directeur de Fresnes à l'époque en octobre 2014 est une décision locale du fait de l'architecture de la prison. On ne peut pas faire la même chose à Osny ou à Fleury. Maintenant, effectivement, on parle de surpopulation carcérale en maison d'arrêt, mais aussi de sous-effectifs du personnel, notamment des surveillants. Ça s'est fait très vite. L'administration pénitentiaire, me semble-t-il, a dû répondre à une demande politique.
Alors vous faites un petit peu comme Adeline Hazan ou Isaac Hayes, c'est-à-dire vous me répondez sur les unités dédiées, alors que moi la question, elle portait pour l'instant sur finalement les droits ou la restriction des droits qu'on pourrait ou qu'il faudrait autoriser pour ces détenus. Alors, en l'occurrence, qui se retrouvent dans ces unités. Mais jusqu'où il faut aller dans un régime qui serait un petit peu exceptionnel en termes de droits accordés aux détenus? Est-ce qu'il faut les réduire? Est-ce que c'est quelque chose qui risque au contraire de renforcer peut-être la radicalisation? Je ne sais pas si c'est un terme d'ailleurs auquel vous adhérez tous les trois, mais comment est-ce que vous répondez à ça?
Sur la question des unités dédiées, maintenant, qui mettons dans les unités dédiées. On voit bien que même la personne qui est passée à l'acte à Osny dernièrement venait d'arriver dans l'unité dédiée en juin. Quelqu'un qui n'a pas été évalué. Il y a certaines unités d'évaluation et puis unité de prise en charge. À Osny, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'une unité d'évaluation, mais une unité de prise en charge. Donc cet individu est arrivé en détention dans cette unité-là sans aucune évaluation au préalable. Il venait d'une autre prison. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, mélanger uniquement des individus du fait de leurs faits, notamment association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste, et on sait très bien qu'il y a énormément de retours de Syrie avec des profils très divers, c'est un risque. Je le dis, je le répète, les unités dédiées, pourquoi pas? Je pense que si on peut, on a le droit de se poser la question. Je dirais qu'il existe actuellement pour les leaders les plus charismatiques, notamment liés à l'islam radical depuis les années 90, l'isolement, c'est-à-dire sans contact avec les autres détenus pour éviter l'influence. Ce qui est impossible en maison d'arrêt. Aujourd'hui, ce n'est pas possible d'isoler les plus dangereux. Faut-il encore laisser le temps aux professionnels de l'administration pénitentiaire, que ce soit les travailleurs sociaux, voire les surveillants, pour évaluer la dangerosité des personnes? Ce n'est pas le cas. Il y a un turnover extrêmement important des détenus, ce qui ne permet pas d'évaluer.
Oui, je voulais vous faire une réponse précise et notamment réagir à ce que vient de dire Stéphane Jacquot, parce que moi je considère que unité dédiée ou pas, on ne peut pas réduire des droits fondamentaux qui existent, qui sont reconnus par la loi, comme justement le droit au maintien des liens familiaux, ça existe. Et quand vous dites on doit les réduire, de toute façon c'est au juge d'instruction, puisqu'on parle essentiellement de prévenus, de personnes qui n'ont pas été jugées, qui sont en détention provisoire, c'est le juge d'instruction qui accorde ou non un permis de visite. Donc de toute façon, on ne peut pas réduire davantage le droit aux liens familiaux que ce que fait le magistrat. Donc les annonces du ministre de dire que les droits familiaux, par exemple, seraient éventuellement surveillés davantage, ça n'est pas possible et ça n'est pas souhaitable, parce que ce droit-là, qui est un droit fondamental reconnu par la loi comme d'autres droits, de justement la dignité, se nourrir correctement, etc., eh bien ce sont des droits qui doivent être octroyés à l'ensemble des détenus. Et surtout, si on enlève ces droits, on renforce, c'est ça qu'il faut comprendre, on renforce une stigmatisation de ces détenus qui elle-même est dangereuse.
Il y a un député socialiste, Joaquim Pueyo, qui est un ancien directeur de prison, qui dit ceci: les individus impliqués dans des attentats ou engagés sur la zone irako-syrienne ne peuvent plus être pris en charge comme des détenus de droit commun. Est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne, Adeline Hazan?
Mais ce sont des détenus qui sont impliqués dans des affaires de terrorisme. Mais que je sache, il n'y a pas de régime spécial. C'est une qualification spécifique, mais on est dans le droit commun. Donc, par ailleurs, cette distinction est quand même très artificielle, parce que justement, et c'est aussi une des raisons qui fait que je suis contre ces unités dédiées, c'est que en fait, elles représentent à peu près 90-95 personnes détenues actuellement. Mais on ne sait pas très bien qui on y met, qui l'administration pénitentiaire y met, et il y a énormément en tout cas un certain nombre de détenus. Le garde des Sceaux avance le chiffre que vous avez mentionné tout à l'heure de 1400 détenus. Il y a des détenus qui sont impliqués dans des affaires classiques, je dirais, des affaires criminelles ou correctionnelles, de cambriolage, ou des affaires plus graves, et qui sont, eux, des détenus qui sont repérés comme étant radicalisés. Donc, c'est bien la preuve que faire cette distinction et cette séparation entre les détenus qui sont impliqués dans une affaire de terrorisme et les autres qui ne sont pas impliqués dans une affaire de terrorisme et qui peuvent être tout autant radicalisé, ça prouve bien que cette distinction est artificielle. C'est la raison pour laquelle je pense que ces unités dédiées où il n'y a, ce qui n'était pas prévu à l'origine, il n'y a que des personnes impliquées dans des affaires de terrorisme, ça ne règle pas la situation. Et je l'ai dit, voire ça entraîne des inconvénients supplémentaires.
Stéphane Lacau.
Moi, je voudrais effectivement réagir à ce que dit Aline Nazan. Quand on parle de droit commun, on ne peut pas parler de droit commun avec des personnes qui menacent le pays, des personnes qui ont quand même un but. On l'a bien vu récemment, encore au mois d'août, avec l'assassinat du père Hamel, qui a été effectivement assassiné par une personne qui était placée sous bracelet électronique et qui était déterminée dans son action. Donc effectivement, face à cette nouvelle forme de criminalité, il faut aussi adapter les choses. Et ce qui manque peut-être aussi, on entend les personnels pénitentiaires dire on manque de formation. Je crois réellement, et ce que l'on propose, ce que propose le garde des Sceaux, ce que je propose modestement, comme vous le dites, on peut être que modeste face à ces propositions, mais je crois qu'on manque effectivement d'une formation criminologique. L'approche, par exemple, on entend de plus en plus de politiques proposer des établissements spécialisés par type de crime ou de délit. C'est dans un souci d'avoir aussi une approche spécialisée. J'ai souvent caricaturé ma proposition en disant à l'hôpital, on spécialise bien les services. En cardiologie, on est malade du cœur, on va en cardiologie. On est malade du poumon, on va en pneumologie. Bien,
parce que vous êtes plutôt favorable justement à la création d'établissements dédiés.
Je suis même favorable à la construction d'un établissement.
Il faut bien dire que les unités dédiées, c'est différent. Sont des unités dans des établissements pénitentiaires. Voilà. Là, vous êtes favorable à ce qu'on crée un
établissement seulement. Ouais. Je ne suis pas dans la proposition de Nicolas Sarkozy qui, lui, propose d'incarcérer tous les fichiers S. Disons-le très honnêtement, la proposition de Sarkozy est ni plus ni moins qu'un Guantanamo à la française. Certains, d'ailleurs, politiques, certains parlementaires l'ont dit, ont osé reprendre le terme Guantanamo à la française. Non, je ne parle pas d'un Guantanamo à la française.
Est-ce que vous parlez d'un retour des QHS, les fameux quartiers de haute sécurité qui avaient beaucoup fait parler dans les années 70, par exemple ?
Alors, un établissement, tout simplement, aujourd'hui, qui est d'ailleurs opérationnel, il y a 450 places vides à Fleury-Mérogis, puisque le centre pour jeunes détenus, aujourd'hui, est vide pour réhabilitation. Moi, je propose que cet établissement, qui est à l'écart donc de la prison de Fleury-Mérogis, soit utilisé pour être un établissement spécialisé pour personnes qui sont déjà condamnées pour des faits de terrorisme, qu'on puisse les encadrer, qu'on puisse donc amoindrir leur dangerosité et un jour se préoccuper de leur réinsertion, puisque on ne parle pas de les incarcérer à vie, on parle d'amoindrir leur dangerosité. Il y a forcément, bien sûr, tout un travail de sensibilisation aussi à faire sur ce qu'eux, ils pensent de l'islam, et mettre en lien aussi l'aumônerie musulmane avec ces personnes. Mais c'est sûr que pour l'instant, ça nécessite, bien sûr, un régime de détention particulier.
Et pour que ces détenus finissent par être moins dangereux, il faut aussi sans doute qu'ils collaborent aux programmes qui peuvent être mis en place. Est-ce que dans le cadre de la recherche action que vous aviez menée, Ouïsa Kiès, vous aviez fait le constat qu'il fallait un certain degré d'isolement, peut-être justement pour ces détenus, pour pouvoir les traiter de manière spécifique, ou bien au contraire, le fait de les éloigner de détenus plus classiques, ça contribuait à les stigmatiser et donc à les, comment dire, renfermer dans leur dangerosité?
Alors nous avons travaillé avec des détenus de différents bâtiments dans chaque prison. C'est-à-dire que pour moi et pour ma part, je ne conçois pas le fait qu'on puisse évaluer la dangerosité d'une personne pendant quelques semaines en dehors de son milieu naturel, en tout cas quand il est incarcéré. Je crois qu'au contraire, qu'on puisse donner les moyens aux professionnels, encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait des prestataires extérieurs, les professionnels, que ce soit les surveillants, les travailleurs sociaux, sont en capacité de faire cette évaluation là, ils ont simplement une mauvaise estime de leur travail, de leur capacité, puisqu'on était dans une situation effectivement anxiogène depuis les attentats de janvier 2015. La question que je me pose, c'est que, alors effectivement, réduire les cantines, je pense pas que les armes ou les téléphones passent par les cantines, hein, qui sont extrêmement contrôlées par les établissements pénitentiaires. En revanche, c'est vrai que la majorité actuellement des personnes liées à des affaires terroristes sont quand même prévenues. Donc, ce sont des personnes qui ne sont pas condamnées. On ne peut pas aujourd'hui les considérer, et le problème en France, je crois, c'est de mélanger à la fois des prévenus et des condamnés, que ce soit pour des affaires terroristes ou autre chose. Donc il faut refonder complètement les prisons. Vous parlez de réinsertion, monsieur, mais je crois que la question des prisons n'a jamais permis la réinsertion depuis l'invention des prisons. La prison permet de mettre de côté des individus extrêmement dangereux et de protéger, dans ce cas-là, la société, les citoyens du pays, mais en aucun cas a permis la réinsertion.
Avant de revenir à l'Inazan, Stéphane Jacot, qu'est-ce que vous faites justement de ces détenus qui ne sont pas encore jugés? Est-ce que vous, dans ce que vous préconisez, vous les mettez aussi à part pour un traitement particulier, ou bien est-ce qu'ils doivent rester avec les autres détenus en attendant leur procès? Mais on sait bien que la justice avance lentement.
Mais effectivement, moi je vois les choses par rapport à la menace que ça représente, et bien évidemment... Moi, je parle d'un établissement où on y met des personnes condamnées, je ne parle pas de prévenus. Mais bien évidemment, là, pour le coup, ils seraient en maison d'arrêt et avec un encellulement individuel. Puisque là, je parle d'un établissement spécialisé pour personnes condamnées pour des faits de terrorisme, avec un programme bien particulier, pas pour des prévenus. C'est là justement où je tenais à rectifier par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Je parlais vraiment de personnes condamnées. Donc effectivement, pour les personnes prévenues, mais là encore, puisque, rappelons-le, le rapport Urruas parlait essentiellement ou en partie de l'encellulement individuel, on est en surpopulation carcérale dans les maisons d'arrêt, où on y trouve des prévenus et des personnes condamnées à de courtes peines. Bon, bien évidemment, là aujourd'hui, on a quelques obstacles qui font que c'est peu opérationnel de rendre l'encellulement individuel pour les personnes prévenues.
Mais la majorité.
Oui, Zakias,
excusez-moi, la majorité des personnes qui sont actuellement dans les unités dédiées sont prévenues. Ce sont des mandats de dépôt liés à une association de malfaiteurs individuels.
Qui dureront des années.
Ça dure des années.
C'est ce que je voulais dire.
Et c'est d'ailleurs quelque chose que vous relevez dans le rapport que vous avez rendu, Adeline Nazan. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien sur quels critères se fait la sélection justement de ces détenus.
On ne sait pas très bien comment se fait la sélection de ceux qui vont y aller et ceux qui ne vont pas y aller. Et puis à l'intérieur de ceux qui vont y aller, pourquoi ils vont aller dans telle unité dédiée ou dans telle autre. Mais je voulais répondre exactement la même chose que ce que vient de dire Ouïsa Kiès. C'est-à-dire que la très grosse majorité des personnes impliquées dans des affaires de terrorisme sont actuellement, pas seulement celles qui sont en unité dédiée, toutes les personnes dont il s'agit sont prévenues. Donc moi, je n'ai pas envie de commenter le fait d'un établissement spécialisé par ailleurs auquel je ne crois pas, mais à la limite, ce n'est même pas le sujet, puisque ces personnes sont en détention provisoire et elles vont l'être pendant des années, parce que les personnes qui reviennent de Syrie actuellement, elles sont impliquées dans des affaires qui nécessitent plusieurs années d'instruction. Donc le problème, il est là. On fait quoi de ces personnes? Et si on discute, comme nous l'avons fait avec les responsables de l'administration pénitentiaire, on s'aperçoit qu'au fond, ce qui est un portant, et ceux d'ailleurs auxquels moi je crois, pour le moment en tout cas, ce sont les programmes de désengagement, déradicalisation, et que finalement, s'ils les ont regroupés, c'est certainement une des conséquences de cette surpopulation carcérale qui empêche de faire un certain nombre de programmes spécifiques avec justement une surpopulation qui atteint presque 200%.
Oui, Madeleine Azan, si vous êtes alors sceptique par rapport à ces unités dédiées qui se trouvent dans des établissements pénitentiaires, si vous êtes plutôt hostile à l'idée d'établissement cette fois entièrement dédié, par exemple pour des détenus radicalisés, ça veut dire que la solution qui reste a priori, c'est de garder une forme de mixité entre les détenus, c'est-à-dire des détenus radicalisés avec d'autres types de détenus. Mais là, l'argument qu'on peut vous avancer, c'est de dire, bah, attention, ils risquent de faire du prosélytisme et de convertir des détenus qui ne sont pas encore radicalisés. Et donc, on crée aussi, on amplifie un phénomène. Donc, la solution, elle est compliquée à trouver.
Oui, bien sûr qu'elle est compliquée à trouver, mais je pense qu'il y a moins d'inconvénients à ce qu'ils soient, pour un certain nombre en tout cas, dispatchés en détention normale, et puis pour ceux qui sont estimés comme étant les plus dangereux, qu'ils soient placés, comme les textes le permettent, à l'isolement. Et l'isolement, c'est un véritable statut, c'est-à-dire que ça obéit à des règles, à des durées qui sont prolongées selon une certaine procédure. C'est quand même quelque chose de, à mon avis, plus respectueux des procédures et des droits fondamentaux. Mais je ne pense pas, je le redis, que la solution soit de les regrouper. Après, comment effectuer, justement, ce serait quand même bien qu'on évoque cela, parce que c'est quand même beaucoup ça le sujet, c'est comment faire en sorte que ces personnes qui vont être incarcérées pendant souvent plusieurs années, vont-elles être désengagées, déradicalisées? Et c'est là qu'il faut revenir au programme dont parlait tout à l'heure justement Ouzia Kiesp, qu'elle a contribué à les élaborer, au programme qui sont décriés par certains, mais à mon avis, valent le coup en tout cas d'être tentés. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ces personnes reviennent, si je puis dire, à une conception, j'ai envie de dire, normale de leur religion, c'est-à-dire qu'elles pratiquent un islam, voire rigoriste, si elles le veulent, c'est un droit qui doit être accordé à chacun, mais que ça ne les entraîne pas dans des actes violents. C'est ça le vrai sujet, parce que sinon, on ne réglera rien, on en regroupera comme ça une centaine pendant un certain nombre d'années, et puis, je vous rappelle d'ailleurs que ce regroupement, il doit durer 6 mois. On en fait quoi au bout de 6 mois? C'est la question qu'on a posée dans le rapport, personne ne nous a répondu.
Et d'ailleurs, pour répondre à votre question, Adeline Azan, est-ce que l'institution prison est l'institution, disons, la mieux placée pour répondre de manière satisfaisante à cette question? Stéphane Jacquot et Ouzia Kiesp. Stéphane Jacquot.
Déjà, pour revenir, moi, je pense que réellement, la porosité est toujours possible quand il y a un mélange ou quand il y a des détenus qui sont radicalisés ou qui sont en voie de l'être.
Elle est possible aussi dans les unités dédiées, par ailleurs.
Mais bien sûr, mais c'est bien pour cette raison que quand ils sont en unité dédiée, la porosité est toujours possible, donc il faut les mettre dans un établissement à part. Encore une fois, j'ai pas la réponse, mais pour répondre à votre question, l'administration pénitentiaire, les syndicats de l'administration pénitentiaire sont aujourd'hui en souffrance et n'ont eux-mêmes pas la réponse que aujourd'hui, même les politiques n'ont pas la réponse à cette question. Que fait-on aujourd'hui de ça? Que fait-on de ce phénomène qui, effectivement, a pris beaucoup de retard? Et aujourd'hui, quand on se retrouve confronté à des menaces... Mais vraiment, moi, j'ai quand même une question à vous poser à toutes les deux. Si demain, la France est de nouveau touchée par des attentats, est-ce que vous aurez la même position?
Non, écoutez, pas ce genre de question.
Mais
s'il
si,
vous plaît,
elle mérite d'être posée. Est-ce que vous aurez toujours la même position?
Non, parce que Stéphane Jacquot, tout le monde autour de cette table et partout est extrêmement préoccupé par le climat ambiant. Personne, il n'y a pas ceux qui prennent ça au sérieux et ceux qui ne le prennent pas au sérieux. Donc, ce genre de question, c'est un peu ce qu'il y a derrière. Donc, moi, je n'ai pas du tout envie d'y répondre. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ce qui est évoqué, c'est que dans ces unités dédiées, et ce serait évidemment le cas dans un établissement spécifique, il y a des détenus qui sont à des niveaux de radicalisation totalement différents. Ça veut dire qu'on y met à la fois quelqu'un qui est vraiment au début de ce processus et qu'on pourrait tout à fait justement se faire désengager, et quelqu'un qui est totalement vraiment ancré dans ce processus de radicalisation. Donc c'est dangereux pour ceux qui justement sont au début de ce processus de les mettre
sans étanchéité totale, parce que ça n'est pas possible, de les mettre dans ce type d'unité dédiée, voire dans ce type d'établissement.
Je sais pas si
et moi, j'ai pas l'intention de changer d'avis s'il y a un autre attentat.
Ouais, alors c'est quand pas... même aussi, moi aussi, vous connaissez, vous juste brièvement, je me permets, vous connaissez mes positions qui sont quand même dans votre lignée. Je pense qu'on a déjà débattu sur d'autres plateaux, sur d'autres. Vous connaissez.
Oui, mais alors évitez ce genre de questions. Qu'est-ce qu'on fera s'il y a un autre
attentat? Justement, on va pas y passer notre temps sur cette question.
Mes positions évoluent aussi et c'est normal.
Je crois que je l'ai dit dès ma première intervention dans cette émission, c'est-à-dire que mon positionnement a évolué. C'est-à-dire j'étais contre les unités dédiées dès le début, dès l'annonce du Premier ministre en janvier 2015, puisque évidemment l'expérience internationale montrait que ça pouvait simplement conforter une idéologie et créer des gangs, des groupes. Et le passage à l'acte. Ce qui s'est passé à Oni ces dernières semaines était prévisible. C'était quelque chose qui était vraiment, qu'on sentait. Moi, j'interviens depuis 2008 en prison et je peux vous assurer que quand on va en prison entre 2015 et 2016, on n'est plus dans le même contexte. Il y a avec un nombre extrêmement important de mandats de dépôt terroristes. Je crois que ce que vous posez et peut-être la différence, c'est qu'on ne doit pas prendre des décisions de manière hâtive. Et quand il se passe des attentats, les personnes en charge du gouvernement qui prennent des décisions qui sont en inadéquation avec la réalité du terrain ont des conséquences sur le travail des surveillants, de tous ceux qui travaillent auprès des détenus, a des conséquences aussi sur les détenus. La question des prisons, et vous parliez tout à l'heure des affaires de mœurs, mais c'était pour les protéger eux en tant qu'individus, puisque violenté. Là, le problème de est-ce qu'on doit isoler ou transférer, changer de détention, de prison ces individus liés à une mouvance terroriste, c'est un débat au sein de l'administration pénitentiaire depuis 10 ans. Ce n'est pas nouveau. Et je crois que c'est aujourd'hui, il n'y a pas de solution claire. La question de l'isolement, je crois, aujourd'hui, je peux avoir un positionnement que oui, on peut isoler, effectivement, c'est déjà le cas, des leaders charismatiques. Mais la sélection n'a pas été suffisamment fine, notamment dans les unités dédiées. Tout simplement parce que c'était une décision politique qui arrive de manière trop rapide. Le temps de mettre en place au sein des prisons a été trop rapide. En moins d'un an, il a fallu créer ces unités dédiées, mettre des gens dans ces unités dédiées avec des profils et des degrés de radicalité qui sont complètement différents. Donc aujourd'hui, il faut à un moment donné que le gouvernement accepte de revenir en arrière, accepte aussi de réfléchir, puisque moi j'ai rencontré beaucoup de détenus, des centaines de détenus depuis plusieurs années, liés à des affaires terroristes, et je peux vous assurer qu'en arrivant en janvier 2015 en prison, j'ai rencontré des retours de Syrie avec des profils complètement différents.
Alors justement, sur cette question, oui, Zakès, parce que juste pour qu'on puisse à nouveau entendre nos autres invités, sur cette question de la diversité des profils, puisque manifestement, moi, je trouve que ce qui ressort de la discussion de ce soir, c'est qu'on peut pas appliquer, on va dire, une recette ou une méthode à l'ensemble de ce qu'on appelle les détenus radicalisés, puisque les profils sont trop différents et qu'il y a un vrai problème de diagnostic finalement qui est fait. Est-ce que pour avoir des diagnostics peut-être plus fins et avoir apporté des réponses finalement au cas par cas pour chaque profil de détenu, est-ce qu'il faut, par exemple, Stéphane Jacquot, renforcer la capacité du renseignement à l'intérieur même des prisons? Est-ce que ça peut être par exemple une piste pour justement après apporter des réponses beaucoup plus fines?
Alors, pour revenir à l'évaluation, on en a parlé tout à l'heure de la dangerosité, je suis absolument contre. Scientifiquement, on ne peut pas la prouver. On est revenu là-dessus. Christiane Taubira, d'ailleurs, a retiré cette mesure que j'approuve. Elle était inapplicable. Effectivement, l'évaluation, par contre, doit être un outil de régulation de la population carcérale, et en particulier pour ce profil de détenus, pour voir leur possibilité de passage à l'acte et les observer, donc les évaluer sous une autre forme que évaluer leur dangerosité. Bien évidemment, ça doit être un outil. Pour ce qu'il est, effectivement, du renseignement. Aujourd'hui, l'administration pénitentiaire a enfin intégré la communauté du renseignement, c'est-à-dire que depuis peu, un directeur des services pénitentiaires assiste à des réunions qui se tiennent régulièrement à l'Élysée sur le renseignement. Mais malheureusement, il y a peu de renseignements en détention, bien qu'il y ait un correspondant du renseignement intérieur sur chaque département, c'est insuffisant. On peut imaginer qu'il y ait, par exemple, un office central du renseignement auprès de la direction de l'administration pénitentiaire qui fasse réellement du renseignement, sans oublier qu'il faut, bien évidemment, que ça se fasse avec d'autres services de l'État qui font du renseignement, donc pour une meilleure coordination du renseignement.
Le renseignement, ça peut être un atout pour apporter une réponse un peu plus fine et complexe, disons, à ces questions, Adeline Hazan.
En tout cas, il y a un véritable sujet sur la difficulté de détection des détenus radicalisés en prison. L'administration pénitentiaire fait des grilles, les évalue, mais en tout cas, n'ont pas trouvé comment faire. Mais il y a un véritable problème également sur l'absence de personnel dédié au renseignement pénitentiaire. Ça, c'est une évidence. J'étais encore il y a 15 jours dans un très gros établissement de la région parisienne où il y a une personne qui ne le fait pas à temps plein pour un établissement de plusieurs centaines de détenus où manifestement ce problème est un problème important. Dans d'autres établissements, c'est à peu près la même chose. Alors, il avait été annoncé un certain nombre de recrutements supplémentaires pour effectuer ce renseignement pénitentiaire. Ça, je crois qu'il va falloir le développer. Autant, on va pas faire un débat de spécialistes, je pense pas que le rattachement au renseignement intérieur soit une bonne chose parce que les surveillants pénitentiaires ne sont pas des policiers, il faut pas tout mélanger. Autant, je pense que le renseignement pénitentiaire doit être renforcé et qu'il faut arriver à ce que l'administration pénitentiaire arrive à détecter de façon plus fine les détenus qui sont radicalisés de ceux qui ne le sont pas.
Aux Akès, sur cette même question.
Oui, sur la question des officiers de renseignement, ils sont très peu nombreux. C'est une ou deux personnes aujourd'hui pour gérer 900 détenus en surpopulation carcérale. C'est la réalité, en tout cas, en région parisienne. Mais ça ne suffit pas. Il faut à un moment donné, alors effectivement les grilles, les fameuses grilles de détection ne suffisent pas, il faut aller à la rencontre des détenus, il faut travailler sur un temps long, ce qui n'est pas possible en maison d'arrêt. En tout cas en France, ce n'est pas possible puisqu'il y a un turnover des détenus qui ne permettent pas aux travailleurs sociaux, aux surveillants, d'avoir un suivi et d'évaluer finalement le détenu puisque au bout de quelques mois, au bout de 2-3 mois, la personne peut tout à fait changer d'établissement. Donc je crois que la question de la radicalisation a permis en tout cas une visibilité sur les conditions de détention, sur les conditions de travail du personnel de l'administration pénitentiaire, et que oui, il faut créer des places de prison, et que l'encellulement individuel ne doit pas être simplement en direction des radicalisés potentiels ou des radicaux condamnés. Je crois que la prison doit avoir un autre objectif qu'uniquement punitif.
Est-ce qu'il faut aussi revoir, ça ferait l'objet évidemment d'une émission à part entière, mais la politique carcérale, Stéphane Jacquot, Adeline Hazan, en disant puisque la question des prévenus est quand même vraiment une question importante et que ne se retrouvent pas peut-être en prison des gens qui pourraient vivre des condamnations d'une toute autre manière que celle de l'enfermement, Stéphane Jacquot.
Vous voulez dire peut-être éviter à certains d'aller en prison,
c'est voilà,
ça vous voulez dire ?
C'est exactement
bien
ça.
Bien évidemment, je pense que notamment...
Parce que ça a été un vrai débat justement. Avec la réforme Taubira.
Là, on parle de la surpopulation carcérale actuellement dans les maisons d'arrêt, mais il y a évidemment des personnes qui n'ont pas leur place aujourd'hui dans les maisons d'arrêt. Moi, je suis assez favorable à la construction de 10 000 places de prison supplémentaires, comme le proposait Jean-Jacques Urvuas, mais en tous les cas, il y a à repenser complètement le mécanisme. Avec Dominique Rimbourg, on dit régulièrement, quand on donne des conférences sur notre livre, il y a un changement culturel. C'est-à-dire qu'il faut aussi que nos concitoyens puissent voir qu'il y a aussi d'autres formes de condamnation. Et ils sont, voilà, pour eux, c'est la peine visible, c'est la peine de prison, donc c'est la seule, la plus efficace. Or, il y a aussi d'autres façons de répondre, comme par exemple le travail d'intérêt général ou d'autres façons qui...
Ce qui est la majorité des personnes condamnées.
Je pense que tant que on n'aura pas intégré l'idée que la prison, l'incarcération, ça doit être le dernier recours, et tant qu'on n'aura pas réaliser dans la réalité le fait que une fois en prison, il faut absolument que la réinsertion, la lutte contre la récidive soit appliquée à l'ensemble des personnes, qu'elles soient prévenus ou détenus, tant qu'il n'y aura pas du travail, plus de travail dans la prison, dans les prisons, il y a actuellement seulement 20% de détenus qui travaillent, tant qu'il n'y aura, on ne mettra pas autant de moyens, et c'est, je le dis par rapport au plan de Jean-Jacques Hervoici hier, son plan, c'est quand même essentiellement d'être la construction de nouvelles places. Alors autant, je crois qu'il faut un certain nombre de places nouvelles, c'est une évidence, mais ne réfléchir une politique pénitentiaire qu'au travers de la création de nouvelles places, comme c'est quand même encore trop le cas avec ce plan, et mettre peu de moyens et peu de réflexion de fond sur le sens de la peine, comment lutter contre la récidive, comment occuper autrement que par des activités strictement occupationnelles les détenus, mais tant qu'on ne fera pas ça, on ne réglera pas le problème.
Et on voit bien comment cette question des détenus radicalisés ne peut pas se penser de manière isolée, justement, mais dans un ensemble beaucoup plus vaste qu'est celui de la politique carcérale. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, Adeline Hazan, Wizakies et Stéphane Jacot, d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez poursuivre comme chaque jour, soit sur notre fil Twitter, soit sur notre site franceculture.fr, à la page du grain à moudre. Demain, nous poserons la question suivante. Le réchauffement climatique est-il une chance pour la paix? Nous le ferons avec Bruno Tertrais et François Jemaine.